Léon Tolstoï, le prisonnier du Caucase. Un gentilhomme servait dans le Caucase comme officier. On le nommait Giline. Une fois, une lettre lui arriva de chez lui. Sa mère lui écrivait « Je suis vieille et j'ai envie, avant de mourir, de revoir mon fils chéri. Viens me dire adieu. » Mets-moi dans le tombeau, et quand j'y serai, avec Dieu, retourne à ton service. Je t'ai trouvé une fiancée, elle est intelligente et bonne, et a du bien. Il peut se faire qu'elle te plaise, que tu l'épouses et que tu restes ici tout à fait. » Giline eut un mouvement d'hésitation. De fait, sa vieille mère commençait à baisser. Il se pourrait qu'il ne la relevît plus. Il fallait partir, et si la fiancée était à son goût, il était possible qu'il l'épousât. Il alla trouver son colonel, obtint une permission, dit adieu à ses camarades, acheta à ses soldats 4 seaux d'eau de vie pour les adieux, et se disposa à partir. On était alors en guerre dans le Caucase. On ne voyageait sur les routes ni le jour ni la nuit. Dès qu'un Russe sortait ou s'éloignait des forteresses, les Tatars le tuaient ou l'emmenaient dans les montagnes. Il était d'usage que 2 fois par semaine, des soldats d'escorte allassent de forteresse à forteresse et les voyageurs se plaçaient au milieu d'eux. Cela se passait en été. À l'aurore, le convoi s'assembla en dehors de la forteresse. Les soldats d'escorte sortirent et se mirent en marche sur la route. Giline allait à cheval et un chariot portant ses bagages marchait avec le convoi. Il y avait 20 verstes à parcourir. Le convoi allait lentement. Tantôt les soldats s'arrêtaient, tantôt dans le convoi quelques roues se détachaient ou un cheval s'arrêtait et tous s'arrêtaient pour l'entendre. Giline pensa « Mais pourquoi dirais-je pas seul sans les soldats? Le cheval que je monte est bon, et si même je tombe sur les Tartares, eh bien je m'éloignerai en galopant. » Il était arrêté, il hésitait. Mais vers lui s'avança à cheval un autre officier, Costiline, qui lui dit « Allons seul, Giline. « Je n'ai plus de force, j'ai envie de manger, je suis en feu. Ma chemise est à tordre. » Et Costiline, un homme lourd et gros, fond rouge, était inondé de sueur. Giline réfléchit et dit « Ton fusil est-il chargé ?»«
Oui, il est chargé. » »«
Eh ben allons alors, seulement à condition de ne plus nous séparer. » Et ils partirent en avant sur la route. Ils marchaient dans la steppe, causaient et surveillaient le pays. La vue s'étendait loin tout autour. Seulement, la steppe prit fin. La route s'engagea entre 2 montagnes dans un défilé. Et Giline dit « Oh, il faut que j'aille sur la montagne pour regarder. » Le cheval qu'il montait était un cheval de chasse. Comme avec des ailes, il le porta sur la pente raide. À peine eut-il sauté, il regarda. En avant d'eux, dans un espace d'une desiatine, se tenaient des Tartares à cheval. Il y avait 30 hommes. Il les vit et voulut revenir en arrière. Mais les Tartares l'avaient aperçu. Ils fondirent sur lui et, tout en bondissant, ils retirèrent leurs fusils de leurs fourreaux. Giline lança son cheval sur la pente et cria à Costiline « Prends ton fusil !» Mais Costiline, au lieu d'attendre, dès qu'il vit les Tartares, se coucha, suivant l'usage des gens de forteresse. Avec son fouet, il excita son cheval, faisant aller tantôt d'un côté, tantôt d'un autre. Giline vit que l'affaire devenait mauvaise. Le fusil était parti. Avec un sabre seul, Avec son sabre seul, il n'y avait rien à faire. Il lança son cheval en arrière vers les soldats. Il espérait se sauver. Il vit six Tatars s'élancer pour lui couper la route. Le cheval qu'il montait était bon, mais les leurs étaient encore meilleurs, et il galopait pour lui couper la route. Il se mit à ralentir. Il voulut revenir en arrière, mais déjà son cheval s'était élancé. Il ne put le retenir. Il vola droit au Tartare. Il vit s'approcher l'un d'eux, pourvu d'une superbe barbe rouge, et monter sur un cheval gris. Il criait, son fusil était dans le fourreau. Gilline, quoique de petite taille, était brave. Il tira son sabre et lança son cheval droit sur le Tatar rouge. Il pensait, ou je le renverserai avec mon cheval, ou je l'abattrai avec mon sabre. Mais les Tatars firent feu sur lui, par derrière, avec leurs fusils et atteignirent le cheval. L'animal tomba et Gilline eut la jambe prise sous la bête. Il voulut se relever, mais déjà deux Tatars étaient assis sur lui. Il bondit et se débarrassa de ses ennemis, mais trois autres encore sautèrent de leurs chevaux et se mirent à le frapper avec leurs crosses. Ses yeux se troublèrent et il chancela. Les Tatars le prirent, enlevèrent de leurs selles des angles de rechange, lui tordirent les bras derrière le dos, le lièrent solidement et l'attachèrent à une selle. Ils prirent son bonnet fourré, lui enlevèrent ses bottes et déchirèrent tous ses vêtements. Gilline leva les yeux sur son cheval. Telle la pauvre bête était tombée sur le flanc, telle elle gisait. Elle agitait seulement ses jambes. Elle ne pouvait atteindre le sol. Elle avait un trou dans la tête et de ce trou ruisselait un tel flot de sang noir que sur une largeur d'une archine tout autour la terre était mouillée. Un Tatar s'approcha du cheval et se mit à enlever la selle. Le cheval s'agitait toujours. Le Tatar prit son poignard et lui coupa la gorge. Un sifflement sortit de son gosier. La bête eut un tremblement et expira. Alors le Tatar à la barbe rouge montait sur son cheval, et les autres mirent Gilline en selle derrière, et pour qu'il ne tombât pas, l'attachèrent à la ceinture du Tatar avec une courroie, puis ils l'emmenèrent dans les montagnes. Gilline ne voyait devant lui que le dos robuste du Tatar et son cou musculeux. Sa nuque rasée paraissait bleue sous le bonnet. Le malheureux officier était blessé à la tête. Le sang s'était coagulé sur ses yeux. Il ne pouvait ni se tenir droit sur le cheval, ni essuyer son sang. Ses bras étaient tellement serrés que ses clavicules se rompaient. Ils arrivèrent à la houle. Les Tatars descendirent de leurs chevaux. Les enfants Tatars s'assemblèrent. Ils entourèrent Gilline. Ils piaulaient et se réjouissaient. Ils se mirent à lui jeter des pierres. Un homme chassa les enfants. Il enleva Gilline de dessus le cheval et appela un ouvrier. Puis un nogaï, la grosse pommette, vêtue d'une simple chemise, s'avança. Sa chemise était toute en lambeaux. Sa poitrine était entièrement nue. Le Tatar lui commanda quelque chose. L'ouvrier apporta un billot pour les pieds, deux troncs de chêne réunis par des anneaux de fer. Un des anneaux portait un pilon et un cadenas. On délia les bras de Gilline, on lui mit le billot et on le mena sous un hangar. On l'y poussa et l'on ferma la porte. Gilline tomba sur du fumier. Il se coucha, chercha à tâtons dans l'obscurité l'endroit le plus mou, et il s'étendit. Le calvaire d'un prisonnier. Gilline ne put dormir. Il vit le jour par une fente étroite. Il avait envie de boire. Il écouta, on ouvrait le hangar. Le tatar rouge s'avança, accompagné d'un autre moins grand et plus brun. Ses yeux étaient noirs et brillants, son teint vermeil, sa barbe peu fournie et courte. Son visage était enjoué et il riait toujours. Le tatar brun était bien vêtu. Sa robe courte de robe soie bleue foncée était ornée d'un galon. Il portait à sa ceinture un grand poignard d'argent. Il avait des souliers rouges en maroquin, brodés également d'argent, et par-dessus ses souliers fins, d'autres souliers épais. Il avait un haut bonnet en peau de bélier blanc. Gilline, avec ses lèvres et ses mains, montra qu'il fallait qu'on lui donnât à boire. Le brun comprit, il se mit à rire, regarda par la porte et appela quelqu'un. « Dina !» Une petite fille accourut, mince, maigre, âgée de 13 ans et ressemblant de visage au tatar brun. Il était évident que c'était sa fille. Elle avait aussi les yeux noirs et brillants et un joli visage. Elle était vêtue d'une longue chemise bleue avec des manches larges et sans ceinture. Sur les basques, sur la poitrine et sur les manches, sa chemise était ornée de rubans rouges. Elle avait un pantalon et des souliers, et par-dessus ses souliers, d'autres souliers avec de hauts talons. À son cou était un collier en demi-rouble russe. Sa tête était découverte. Sa chevelure noire était ornée d'un ruban, et à ce ruban étaient suspendues des plaques de métal et un rouble d'argent. Son père lui donna un ordre. Elle se sauva et revint apportant une cruche de fer blanc. Elle présenta l'eau en s'accroupissant. Elle se courbait tellement que ses épaules étaient plus basses que ses genoux. Elle était assise. Elle ouvrait les yeux. Elle regardait boire Gilline comme si ça avait été une bête. Celui-ci lui rendit la cruche. Elle sauta en arrière comme une chèvre sauvage. Son père se mit à rire. Elle emporta la cruche, courut, rapporta du pain sans levain sur une petite planche ronde, s'assit de nouveau et se courba. Elle ne baissait pas les yeux, elle regardait. Les Tatars se retirèrent, ils refermèrent la porte. Peu après, un Nogaï vint trouver Gilline et lui dit « Aïda, maître, Aïda !» Lui non plus ne savait pas le russe. Gilline comprit seulement qu'il lui ordonnait d'aller quelque part. Gilline sortit avec le billot. Il boitait, il ne pouvait pas marcher tellement son pied était de travers. Gilline suivit le Nogaï. Il vit un village tatar de 10 maisons et leur mosquée avec une tour. Près d'une maison stationnaient 3 chevaux scellés. Un gamin les tenait par la bride. Le tatar brun sortit de cette maison. Il agita la main pour que Gilline vînt vers lui. Et Gilline pénétra dans la maison. La chambre était belle. Les murailles étaient enduites d'argile unie. Il vit des coussins bariolés, des tapis de prix sur lesquels détalaient des fusils, des pistolets et des sabres. Contre le mur, un petit poêle. Le parquet était fait de terre propre comme une aire et tout un coin était garni de feutres. Et sur le feutre, des tapis et sur ces tapis, des oreillers, ce duvet. Là se tenaient assis des tatars, le brun, le rouge et 3 visiteurs. Ils avaient le dos appuyé sur des oreillers de plumes et devant eux, sur une petite planche ronde, on avait disposé des galettes de millet, du beurre de vache fondu dans une tasse et de la bière nature, de la boutsa dans une petite cruche. Ils mangeaient avec leurs doigts et leurs mains étaient lourdes, toutes pleines de beurre. Ils s'entretinrent entre eux. Ensuite, un des Tatars en visite se tourna vers Jiline et se mit à lui parler russe.
« Kazi Mohamed t'a pris, » dit-il.
Il montrait le Tatar rouge.
« Il t'a donné à Abdoui Moulrat. »
Il montra le brun.
« Abdoui Moulrat est ton maître à présent. »
Jiline garda le silence. « Combien coûte la liberté ?» Abdul Mourad prit la parole. Le traducteur dit
« Il t'ordonne d'écrire une lettre chez toi afin que l'on envoie une rançon. Quand l'argent arrivera, il te laissera partir. »
Jiline réfléchit et dit
« Veut-il une forte rançon ?»
Les Tatars s'entretinrent et le traducteur précisa
« 3 000 pièces de monnaie. »
« Non, » dit Jiline, « je ne peux pas payer une pareille somme. » Abdul se leva brusquement. Il se mit à agiter les bras et dit quelque chose à Jiline. Il croyait toujours qu'il comprenait. Et l'interprète traduisit.
« Combien donc donneras-tu ? »
Jiline resta un instant silencieux et offrit 500 roubles. Après discussion, l'interprète lui transmit la réponse. « Pour ton maître, c'est peu, une rançon de 500 roubles. Il m'a payé 200 roubles pour toi, car si Mohamed les lui devait. Il t'a pris pour la dette. Tu ne peux pas partir pour moins de 3 000 roubles. Et si tu n'écris pas, on te mettra dans une fosse et l'on te châtiera avec le fouet. » « Oui, » pensa Jiline. « Avec eux, si on a peur, c'est pire. » Il se dressa sur ses pieds et cria. « Et toi, dis-lui à ce chien que s'il veut m'effrayer, je ne donnerai même pas un copec et que je n'écrirai jamais. Je n'ai pas eu peur et j'aurai pas peur de tout, de vous, espèce de chien. »
L'interprète traduisit. De nouveau, ils se mirent à parler tous à la fois. Ils discutèrent longtemps.
Puis le brun se leva brusquement et s'approcha de Jiline.
Urusgigite, dit-il, Urusgigite Urus.
Chez eux, Jigite signifie garçon brave. Et il rit. Il dit quelque chose à l'interprète et l'interprète conseilla.
Donne 1 000 roubles.
Jiline répéta.
Je ne donnerai pas plus de 500 roubles. « Et si vous me tuez, vous n'aurez rien !»
Les Tatars s'entretinrent. Ils envoyèrent l'ouvrier quelque part et eux-mêmes regardaient tantôt Jiline, tantôt la porte. L'ouvrier revint. Derrière lui marchait un homme, pieds nus et tout déchiré, ayant aussi un billot au pied. Jiline poussa un soupir. Il avait reconnu Kosiline. On l'avait pris, lui aussi. On les fit asseoir l'un à côté de l'autre. Ils se mirent à causer et les Tatars se taisaient, observaient. Jiline raconta comment il avait été fait prisonnier. Kosiline dit que son cheval s'était arrêté, que le fusil avait raté et que ce même Abdul l'avait atteint et fait prisonnier. Abdul se leva brusquement. Il montra à Kosiline et dit quelque chose. L'interprète expliqua que maintenant ils avaient tous deux le même maître et que celui qui donnerait l'argent le premier serait aussi renvoyé le premier. Il expliqua à Jiline.
Toi, tu te fâches toujours. Ton compagnon est plus tranquille. Il a écrit une lettre chez lui. On lui demande 5 000 pièces. Il sera bientôt nourri et ne sera pas molesté.
« Mon compagnon, riposta Jiline, fait comme il veut. Il se peut qu'il soit riche, moi je ne suis pas riche. Il en sera comme j'ai dit. Tuez-moi, si vous voulez, vous n'y gagnerez rien, et je n'écrirai pas pour plus de 500 roubles. » Ils se turent. Soudain, Abdul se leva brusquement. Il atteignit un coffre, prit une plume, un morceau de papier, de l'encre. Il s'approcha de Jiline, lui frappa sur l'épaule et dit « Écris !» Il consentait.
Attends encore, dit Gilly à l'interprète. Dis-lui qu'il faut qu'il nous nourrisse bien, qu'il nous habille, qu'il nous chausse comme il faut, et dit qu'il nous laisse ensemble, ce sera plus gai pour nous, et qu'il nous retire le billot. Il regarda le maître et se mit à rire. Le maître rit aussi. Il avait écouté, il acquiesça, sauf en ce qui concernait le billot. Il n'est pas possible de le retirer. Il se sauverait. Pendant la nuit seulement, je l'enlèverai. Gilles écrivit une lettre, mais il mit une fausse adresse. Il pensait, « Oh, je m'en irai, et je n'imposerai pas ainsi cet effrayant sacrilège à ma pauvre vieille mère. » C'est ainsi qu'il vécut avec son compagnon pendant un mois entier, puis il résolut de s'enfuir et en parla à Cosiline. Celui-ci réfléchit longuement et se décida. « Eh bien, allons !» Giline pratiqua dans la muraille un trou assez large pour que lui et Costiline puissent passer au travers. Puis ils attendirent que tout bruit cessait dans la houle. Alors les prisonniers s'échappèrent et, après avoir fait le signe de la croix, se mirent en route, pensant n'avoir éveillé aucun soupçon. Le brouillard était froid. Giline jeta ses bottes. Cosiline, les pieds ensanglantés, marchait en gémissant. 20 fois, il demanda à son compagnon de l'abandonner, mais celui-ci finit par le porter sur les épaules jusqu'à ce qu'ils eussent rencontré une petite source qui jaillissait d'un rocher. Giline s'arrêta, déposa Costiline à terre. « Bois, lui dit-il, et permets que je me repose. » À peine était-il étendu que Giline entendit marcher derrière lui. Avec son compagnon, il se jeta à droite dans les buissons sur une pente. Là, tous deux se tapirent. Ils perçurent des voix tatares. Les tatares s'étaient arrêtés à l'endroit où ils avaient quitté la route. Ils parlèrent, puis ils excitèrent leurs chiens. Giline et Costiline entendirent quelque chose craquer dans les lais. Droit sur eux, un chien s'avança en flairant. Il s'arrêta et aboya. Les tatars grimpèrent aussi. Ils les saisirent, les garrottèrent, les mirent sur leurs chevaux et les emmenèrent. Leur existence devint horrible. On ne leur enlevait plus les billots et on ne les laissait plus sortir. On leur jetait là de la pâte crue comme à des chiens et on leur descendait de l'eau dans une cruche. La fosse était puante, chaude et humide. Une fois, Giline était accroupi dans la fosse. Il songeait à la vie libre et il était irrité et triste. Et tout à coup, devant lui, sur ses genoux, un beignet tomba, puis un autre. Puis ce furent des merises. Il regarda en haut et vit Dina. Elle sourit et s'enfuit. Et Giline se dit, « Mais Dina, ne m'aiderait-elle pas ?» Il déblaya dans la fosse une petite place, rassembla de l'argile et se mit à modeler des poupées. Il fit des gens, des chevaux et des chiens. Il pensait, « Lorsque Dina viendra, je les lui lancerai. » Seulement, le jour suivant, Dina ne vint pas. Et Giline entendit des chevaux frapper du pied et des gens passer. L'ange sauveur. Les Tatars se réunirent dans la mosquée. Ils se disputèrent, crièrent et parlèrent des Russes. Il entendit aussi la voix du vieillard. Il ne comprenait pas très bien, mais il devina que les Russes approchaient et que les Tatars avaient peur qu'ils ne vinssent dans le village et n'apprissent ce que l'on avait fait aux prisonniers. Ils s'entretinrent et se retirèrent. Tout à coup, il entendit quelque chose faire du bruit au-dessus de lui. Il regarda. Dina était accroupie. Ses genoux apparaissaient plus haut que sa tête. Elle était penchée, ses colliers pendaient, il se balançait au-dessus de la fosse.
ses yeux brillaient comme des étoiles. Elle retira de sa manche deux beignets et les lui jeta. Gilline les prit et dit « Comme il y a longtemps que tu n'es venu, mais je t'ai préparé des jouets, tiens, les voici !» Il en lança un, mais elle secoua la tête. « Il faut pas !» dit-elle. Elle se tut, resta assise quelque temps et dit « Ivan, ils veulent te tuer !» Et avec sa main, elle montrait son propre cou. « Mais qui veut me tuer ?»«
Mon père, les vieillards le lui ordonnent, mais j'ai pitié de toi. »
Gilline alors dit « Mais si tu as pitié de moi, il faut m'apporter un long bâton. » Elle remua la tête pour dire que c'était impossible et disparut. Dans la soirée, il sentit de la terre qui lui tombait sur la tête. Il regarda en l'air. Une longue perche était appuyée sur le bord de la fosse. Elle se dressa. Elle commença à descendre, enfin elle glissa dans la fosse. Il regarda en haut. Les étoiles resplendissaient haut dans le ciel et au-dessus de la fosse, les yeux de Dina, comme ceux d'un chat, brillaient dans l'obscurité. Elle pencha son visage sur le bord de la fosse et elle murmura « Ivan, Ivan !» Et avec ses mains sur son visage, elle faisait signe qu'il ne fallait pas faire du bruit. Gilline éveilla son compagnon.
« Hé, hey, Castiline, essayons, essayons une dernière fois, je t'aiderai. »
Castiline ne voulut même pas écouter. « Oh non, dit-il, je ne pourrai seulement pas sortir d'ici. Où irai-je quand j'ai pas même la force de remuer? Eh bien alors adieu, ne me garde pas rancune. » Castiline et lui s'embrassèrent. Il se cramponna à la perche, pria Dina de la tenir et grimpa. Deux fois il retomba. Le bio le gênait. Cosidiline le soutint et il arriva en haut, tant bien que mal. Avec ses petites mains, Dina le tirait de toutes ses forces par sa chemise. Elle riait. Gilline enleva la perche et dit « Rapporte-la à sa place, Dina. Si on l'apercevait ici, on te battrait. » Elle traîna la perche et Gilline descendit la montagne. Pour dégager sa marche, il prit une pierre tranchante et essaya d'arracher le cadenas du billot. Mais il n'y put parvenir et les petites mains de Dina, fidèlement revenues, s'y accrochèrent vainement. Gilline, convaincue qu'il fallait atteindre le défilé avant que la lune fût levée, jeta la pierre et résolut de marcher malgré le billot. « Adieu, dit-il, petite Dina. Oh, je me souviendrai de toi éternellement. » Dina se mit à pleurer. Elle le serra dans ses bras, courut dans la montagne et bondit comme une jeune chèvre. On entendait seulement dans la nuit les pièces d'argent de ses cheveux résonnant sur son dos. Gilline fit le signe de la croix, prit dans sa main le cadenas du billot afin qu'il ne fît pas de bruit, et se mit en route. Il traînait la jambe et regardait toujours le côté rouge du ciel où la lune se levait. Il connaissait le chemin. Il alla tout droit pendant 8 verstes. Mais parviendrait-il à la forêt avant que la lune apparût tout à fait? Il traversa la rivière, la lune jaillit et il atteignit la forêt. Il essaya de nouveau de démonter le billet. Il se meurtrit les mains, mais ne l'ouvrit pas. Il se leva et se mit en route. Il parcourut 1 verste. Ses forces étaient épuisées, ses pieds étaient brisés. Il faisait 10 pas et s'arrêtait. Il marcha pendant toute la nuit. Il rencontra seulement 2 Tatars à cheval, mais il les entendit de loin et se blottit derrière un buisson. Déjà, la lune commençait à pâlir. La rosée tombait.
Le jour était proche et Gilline n'était pas arrivée à la lisière de la forêt. « Eh bien, dit-il, je marche encore 30 pas. Je me blottis dans la forêt et je m'assois. » Il fit 30 pas et vit que la forêt allait prendre fin. Il alla jusqu'à la lisière. Il faisait tout à fait jour. Comme à portée de la main, devant lui étaient la steppe et la forteresse, et à gauche, tout près, au bas de la montagne, des feux brûlaient ou s'éteignaient, la fumée montait et des gens entouraient les bûchers. Il regarda attentivement et vit des fusils qui brillaient. C'étaient des cosaques, des soldats. Gilline fut transporté de joie. Il rassembla ses dernières forces et descendit la montagne. Mais il se disait « Dieu me préserve qu'un tatar à cheval me vole, voilà, je ne passerai pas. » Et à peine eut-il pensé, il regarda. À gauche, sur une colline, se tenaient 3 tatars occupant 2 des clatsiatines. Ils le virent et s'élancèrent vers lui. Alors le cœur lui manqua, il agita les bras et cria ce qui lui vint à l'esprit. « Frère, au secours, frère !» Les Russes l'entendirent et montèrent à cheval. Ils s'élancèrent vers lui pour couper la route aux Tatars. Les Cosaques étaient loin et les Tatars tout près. Mais déjà Gilline avait rassemblé ses dernières forces. Il prit le billot dans sa main et courut vers les Cosaques. Il faisait des signes de croix et criait « Frère, frère, frère !» Les soldats accoururent. L'un d'eux offrit à Gilline du pain, un autre du gruau, un autre de l'eau de vie, un autre le couvrit d'un manteau, un autre lui enleva le billot. Les officiers le reconnurent et l'emmenèrent dans la forteresse. Là, Gilline raconta comment toute son affaire s'était passée et dit « Voilà comment je suis allé à la maison et me suis marié. Évidemment, c'était pas ma destinée. » Et il continua à servir dans le Caucase. Kostiline ne fut racheté qu'un mois plus tard pour 5 000 roubles. On le rapporta à peine vivant. Léon Tolstoï.